Judaïka. Judaïka. Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 17h sur Radio Judaïka, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 1er novembre et tout de suite, le flash d'information de cet après-midi. Israël accueille aujourd'hui ses premiers touristes vaccinés contre le coronavirus après plus d'un an et demi de fermeture des frontières. En effet, pendant les 20 derniers mois, seules les personnes qui avaient de la famille proche au premier degré ou un motif impérieux pouvaient se rendre dans le pays. Mais attention, il y a toutefois certaines conditions. Selon le plan du ministère de la Santé, les touristes qui peuvent se rendre en Israël doivent avoir reçu les deux doses du vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac ou encore Sinopharm depuis au moins 15 jours et... il y a moins de 6 mois. Si cela fait plus de 6 mois, ils doivent avoir reçu leur troisième dose de rappel ou alors ils ne peuvent rentrer en Israël que dans le cadre d'un voyage organisé, tout en effectuant un test PCR ou antigénique toutes les 72 heures et ce pendant 14 jours à compter de leur entrée dans le pays. On se rend à Glasgow à présent. Le sommet sur le climat des Nations Unies, la COP26, a débuté ce lundi en présence de plus de 150 chefs d'État et dirigeants du monde entier, dont le Premier ministre israélien Naftali Bennett. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est exprimé lors du discours d'ouverture en avertissant que si on n'agissait pas maintenant, eh bien la situation deviendra rapidement hors de contrôle. La colère et l'impatience du monde seront incontrôlables à moins que nous transformions cette COP26 sur le changement climatique en une réalité pour la planète. Il est temps d'opérer un véritable changement. Oui, ce sera difficile, mais nous pouvons le faire. Alors mettons-nous au travail. Ce sont les mots de Boris Johnson. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui que commence officiellement cette COP26. Et en marge de tout ça, Naftali Bennett s'est entretenu avec son homologue australien Scott Morrison. Le chef du gouvernement israélien a affirmé avoir hâte de renforcer les relations diplomatiques entre Israël et l'Australie. Il a également remercié le Premier ministre australien pour le soutien de longue date de Canberra envers Jérusalem sur la scène internationale. Enfin en Belgique, tandis que la quatrième vague de Covid-19 semble s'estomper en Israël, ici c'est tout le contraire. C'est pourquoi les autorités ont décidé d'étendre l'usage du Covid Safety Kit à tout le pays à partir d'aujourd'hui. Et donc à partir de ce lundi 1er novembre, si on ne possède pas ce pass sanitaire, on ne pourra pas accéder aux événements et des sanctions pénales pourront être imposées. Et c'est la fin de ce flash, on se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction et tout de suite ne manquez surtout pas votre émission du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube, c'est maintenant, à tout à l'heure.
Alors bonjour Clément à la technique et bonjour Isaac.
Bonjour Richard, bonjour Clément et bonjour à tous nos auditeurs.
Et toutes nos auditrices.
Ça va de soi.
Alors Isaac, de quoi allons-nous parler cette semaine? Alors évidemment, Israël. Il commence à y avoir quelques fissures qui apparaissent au sein de cette coalition. La volonté de finalement voter ce budget cette semaine, je pense. Alors ça fait, je pense, 3 ans qu'il n'y a pas eu, ou même presque 4, 3 ans et demi.
3 ans
qu'il n'y a pas eu de budget de voter. Le sujet des implantations et des tensions que ça crée, évidemment, entre Israël, les États-Unis et l'Europe. Donc, toute une série de sujets un peu connexes dont on pourra s'entretenir. La COP26, la énième conférence de la dernière chance, comme on se plaît à la nommer. Donc, on aura sûrement des commentaires à faire sur cette conférence. Quelques dossiers américains. Un échec cuisant pour Biden, qui espérait... justement, pouvoir arriver à la COP26 avec un succès dans le domaine de l'environnement en ayant passé ces fameuses lois à la fois d'infrastructure, mais aussi la deuxième loi qui devait inclure toute une série de volets liés à l'environnement. Et bien, il a essuyé un nouvel échec puisque ces lois n'ont pas été votées par le Congrès. On parlera peut-être aussi un peu de Facebook, d'une nouvelle... découverte de fraude électorale au Wisconsin, donc quelques petits dossiers intéressants. Et puis on terminera peut-être par notre ami Zemmour. Voilà les tout derniers développements de cette campagne électorale française qui va susciter pas mal de débats, j'en suis sûr. Alors démarrons tout de suite donc par Israël. Donc je mentionnais au tout début, il y a quand même quelques fissures qui semblent apparaître au sein de la coalition. des députés qui se plaignent d'autres députés, ouvertement ou pas si ouvertement que ça, mais enfin des fuites qui sont orchestrées pour montrer combien certains députés ont peu d'opinion sur d'autres députés de la coalition. Certains députés qui menacent de ne pas voter, le fameux budget qu'on essaie de voter aujourd'hui, dont un député de Yamina, je pense, peut-être même un député du parti islamiste Ram, donc des difficultés de ce point de vue-là. Donc Isaac, est-ce qu'ils vont réussir ou pas à voter ce budget cette semaine ?
Je pense que oui. Je pense que finalement, malgré ces bisbilles, les membres de la coalition réussiront à surmonter leurs divergences qui existent sur un très grand nombre de sujets. Mais je pense que à la fin, à la fin du compte, at the end of the day, on réussira à trouver le moyen de voter ce budget avant le 14 novembre, puisque vous savez que c'est la date limite au-delà de laquelle, faute d'adoption d'un budget, eh bien, la Knesset est dissoute et il y a de nouvelles élections qui sont mises au calendrier. Lorsque cette coalition n'a été constituée que pour se débarrasser de Benjamin Netanyahou, il est évident que le risque de se retrouver dans une joute électorale et de voir revenir au pouvoir Benjamin Netanyahou, c'est un collant, c'est un ciment suffisant pour réunir des gens qui ne partagent pas grand-chose les uns avec les autres. C'est certain que Yamina aurait préféré partager le destin politique du gouvernement avec d'autres partenaires que le Meretz ou Ram. Même chose pour le Meretz, qui aurait certainement souhaité ne pas avoir à partager la charge de l'État avec un parti comme Tikva Hadasha. Donc on voit qu'on fait le grand écart. Je pense que à la fin, on taira ces divergences d'opinion sur un grand nombre de sujets. Et la récente actualité en a fourni un certain nombre. Par exemple, la décision prise par le gouvernement israélien, par la bouche du patron de Carol Lavan, de Bleu Blanc, Benjamin Gantz, de déclarer organisation terroriste 6 ONG palestinienne, ça a suscité l'ire de membres de la coalition, en particulier du Meretz et de Ram, mais aussi du Parti travailliste. Même chose pour la décision prise par le comité de concertation consacré à l'adoption ou de permis de construction dans les implantations de Judée-Samarie. Vous savez qu'on a pris la décision de valider 3000 nouvelles constructions en Judée-Samarie, plus particulièrement, essentiellement dans les grands blocs d'implantation, au-delà de la ligne verte. Ça a montré tous les désaccords ou les failles qui existent dans cette coalition, encore une fois, entre les partis de droite et les partis de centre ou de centre-gauche, qui estiment que cette construction dans les implantations contrevient à la solution à deux États auxquelles les partis de gauche souscrivent pleinement, alors que les partis de droite, comme Yamina ou Tikva Hadasha, il n'est pas question pour eux d'envisager la création d'un État palestinien. Donc on voit que tous ces sujets, pour l'instant, sont un peu mis sous le tapis, parce qu'il faut, il y a cette priorité de passer ce budget. La vraie question, c'est qu'est-ce qui arrivera une fois qu'il sera passé ? Parce que pour l'instant, on observe que dans la communauté internationale, on est très patient, on est très indulgent à l'égard d'Israël. En tout cas, c'est comme ça qu'ils font, veulent qu'on interprète leur indulgence à l'égard des décisions d'Israël pour ces 6 ONG, également pour l'adoption de le permis de 3000 nouvelles constructions. Qu'est-ce qu'il arrivera de cette patience une fois que le budget sera passé et que le gouvernement, cette coalition, serait, à les entendre, un peu moins fragile, un peu moins susceptible d'être balayé par un vote de défiance tel que celui qui a eu lieu, d'ailleurs, et qui a failli être adopté. Le gouvernement a failli tomber. L'opposition a réussi à recueillir 59 voix. Il en fallait 61. Donc, c'est le premier vote de défiance. Il y en aura certainement d'autres. Et les chancelleries occidentales comptent sur une coalition un peu plus solide, qui risque moins
d'être balayé pour mettre la pression sur Israël, à la fois sur le, bien sûr, les thèmes connus, hein, Jérusalem, la construction dans les implantations, le refus d'Israël d'endosser la volonté américaine de rejoindre le JCPOA concernant l'Iran. Tout ça, ça fait beaucoup de sujets. Pour l'instant, les chancelleries occidentales se sont gardées de mettre trop fort la pression sur le gouvernement israélien, de peur de voir Benjamin Netanyahou revenir au pouvoir. Mais enfin, certains partis constitutifs de cette coalition ont laissé entendre qu'avant ou après l'adoption du budget, ils seront aussi radicaux, aussi intransigeants quant à la question de la construction dans les implantations. Pas question pour Tikva Hadasha ou pour Yamina de freiner la construction dans les implantations. Pas question. Et donc que la pression américaine s'exerce après l'adoption du budget ou avant ne changera pas grand-chose à la capacité de voir ce gouvernement céder à la pression américaine, ou alors au risque de voir cette coalition se désagréger.
Alors, je sais qu'un sondage a également été publié récemment, qui pose aux électeurs la question de savoir pour qui ils voteraient aujourd'hui si des élections devaient effectivement être appelées. Et d'après ce sondage, donc le parti du Premier ministre, Naftali Bennett, Yamina, ne franchirait pas le fameux seuil des 3,25% requis pour avoir au moins, alors,
4
députés à la Knesset. Bon, ce n'est qu'un sondage. Bien évidemment, ça ne met pas le Premier ministre en position de force, puisqu'il sait très bien, effectivement, que dès lors que ce gouvernement viendrait à s'écrouler, que la probabilité serait plutôt élevée et forte qu'il ne retrouverait pas un poste à la Knesset. Bien évidemment, il ne serait plus Premier ministre, mais quand bien même qu'il serait plus Premier ministre, il ne serait même pas à la Knesset.
Exactement.
Donc ça le met dans une position, j'imagine, extrêmement fragile vis-à-vis de ses partenaires de la coalition, et probablement en situation où il est plutôt disposé à faire des concessions qu'il ne ferait pas s'il était au sein d'un gouvernement plutôt de droite.
C'est le résultat de ce sondage. Vous faites bien de le souligner. Un sondage, c'est une photographie à l'instant T. Ça ne dit rien ou pas grand-chose des intentions de vote de l'électeur israélien une fois qu'il serait convoqué aux urnes, puisqu'il n'est même pas inscrit dans le calendrier. Cette possibilité d'aller aux urnes n'est même pas inscrite dans le calendrier pour l'instant. Donc, c'est une photographie qui reste néanmoins intéressante et qui mérite un commentaire. Parce que ils disent toujours un peu la même chose depuis que ce gouvernement a été mis en place au mois de juin, c'est un renforcement lent mais constant du Likoud qui obtiendrait 35 sièges, mais qui, comme dans les précédents sondages, ne lui permet pas d'espérer franchir le seuil de 61, ou d'atteindre le seuil de 61, puisqu'il serait bloqué toujours à 59. Mais la coalition inverse, les anti-Netanyahou, n'atteindraient pas non plus ce seuil de 61. Donc on serait dans une situation qui ressemblerait beaucoup à celle qui a prévalu pendant les 2 ans avant la dernière tentative de mettre en place une coalition, tentative finalement réussie. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est ce que vous rapportez effectivement, c'est que Yamina, partie du Premier ministre, ne franchirait pas les 3,25%, n'aurait pas même 4 députés. Ce qui veut dire que, effectivement, ça questionne, eh bien, sa représentativité et sa crédibilité ou sa légitimité en qualité de Premier ministre, puisqu'il est chef d'un parti qui risque d'être littéralement balayé à une éventuelle consultation électorale. Et il en est presque de même pour Tikva Hadasha de Gideon Saar, puisque ensemble, dans ce sondage, ils seraient crédités, ensemble, je dis bien, de 6 sièges. Alors, selon les sondages, un jour, c'est Yamina qui en a 4 et Tikva Hadasha qui en a 2. Un autre jour, ils sont à 3 et 3, et donc aucun des deux ne franchirait le seuil, vous imaginez. Et donc, c'est une situation extrêmement, extrêmement fragile, et on voit la nécessité pour ces partis qui sont menacés de ne plus être présents dans une prochaine assemblée, eh bien, de faire durer ce gouvernement. Et quel est le prix extrême qu'ils seraient prêts à payer pour rester, pour continuer de compter dans le paysage politique israélien? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée.
Très bien. Alors, passons maintenant au dossier américain.
Oui.
On sait que Biden avait pour ambition de faire passer son fameux projet de BBB, Build Back Better.
Oui.
Constitué en fait de deux projets de loi. Un premier projet de loi qui est un projet de loi véritablement d'infrastructure, d'un montant d'environ 1200 milliards de dollars. Et là, pour le coup, c'est vraiment un projet d'infrastructure. Il s'agit de reconstruire des autoroutes, des aéroports, des infrastructures télécoms, etc.
Je vous interromps un tout petit instant, parce que les Républicains disent que sur ces 1200 milliards qui devraient être consacrés à la remise en état de toutes les infrastructures américaines, qui sont pour un certain nombre d'entre elles déficientes, seuls 300 millions de dollars seraient consacrés à ces infrastructures. Et que d'autres dépenses seraient faites alors qu'elles ne correspondent qu'assez peu à une dépense d'infrastructure.
C'est un grand débat sur la définition même d'une infrastructure.
Je voulais être précis sur ce plan-là.
Il se rapproche un peu plus d'investissement dit d'infrastructure que le deuxième projet de loi.
Tout à fait.
Qui, lui, à l'origine, était pour un montant de 3 500 milliards de dollars, qui était essentiellement le programme électoral de Bernie Sanders, en fait.
Mm-hmm. C'est le programme de Sanders,
Des centaines de millions de dollars pour le climat, des centaines de millions de dollars pour annuler la dette étudiante, des centaines de millions de dollars pour la sécurité sociale, enfin, un immense projet social de Bernie Sanders. Et donc, ce deuxième projet, qui est, lui, qualifié de « Build Back Better », était à l'origine à 3500 milliards, n'avait pas le moindre espoir d'être voté par le Sénat, parce qu'au Sénat, il y avait deux sénateurs démocrates, mais modérés, Joe Manchin et Kristi Sinema, qui estimaient que c'était totalement démesuré, surtout en une période où l'inflation est déjà galopante aux États-Unis, que de réinjecter encore 3500 milliards de dollars dans l'économie américaine, en plus des 1200. Donc ils ont... clairement donner une fin de non-recevoir, ce qui a obligé les démocrates à revoir leur copie et à revoir à la baisse, évidemment, leurs ambitions. Et ils sont revenus avec un deuxième projet de loi de moitié de taille, à 1 750 millions de dollars. Les chiffres sont tellement astronomiques qu'on a du mal à les...
Milliers de milliards.
Milliers de milliards, donc 1750 milliards de dollars, dans l'espoir que ça permettrait de réconcilier... Donc c'est deux ailes du Parti démocrate, donc l'aile dite progressiste, plutôt d'extrême gauche, on dirait chez nous en Europe, et puis l'aile dite modérée, représentée donc par ce Joe Manchin et d'autres dans le parti. Et Joe Biden s'est fendu une déclaration publique. Il est allé à la Maison-Blanche faire une déclaration publique, essentiellement suppliant presque son parti de voter pour ce nouveau projet de loi, donc de 1750 milliards, plus le projet de 1200 milliards.
3000 milliards quand même au total.
3000 milliards au total, c'est pas rien, excusez du peu. Avant, c'était à la veille de son départ pour le G20 et ensuite pour la COP26, donc presque suppliant son parti de trouver les moyens de se mettre d'accord sur ce nouveau projet de loi de 1750 milliards. Eh bien, il a été retoqué, l'aile progressiste du parti, estimé qu'il n'était pas question de voter.
C'est tout ou rien.
Tout ou rien. Donc ils veulent à la fois... Ils ne voteront pour le projet d'infrastructure que si on voterait également pour le
3005.
Projet Build Back Better. Et en plus, disent-ils, le projet Build Back Better à 1 milliard ou 1750 milliards n'est pas suffisamment ambitieux. Et donc, de toute façon, ils ne sont pas prêts à voter pour celui-là non plus. Et donc, notre ami Biden a été obligé de se rendre au G20 et maintenant au COP26 sans la moindre victoire à faire valoir.
Le roi est nu. Il faut sauver le soldat Biden. Et c'est à peu près ça. Parce que ce que les radicaux du Parti démocrate disent, c'est que les 1 200 milliards plus les 3 500 milliards, c'était déjà une concession aux modérés. C'était déjà un minimum minimorum. Et qu'ils acceptaient de se contenter de ces 1 200 plus 3 500. Donc pas question pour eux de voir les 3 500 être divisés par deux, être ramenés à 1 750 milliards. Donc ils préfèrent se saborder. Ce ne sera rien. Ce qui d'ailleurs satisfait pleinement les modérés Manchin et Sinema, puisque eux, ils peuvent très très bien vivre. Vous savez, il y a des élections l'année prochaine, et leurs électeurs sont très soucieux des risques de dérapage budgétaire et d'inflation, qui existent déjà très fortement aux États-Unis. Et lui, il est très content si on ne vote aucune de ces deux lois, pas plus celle de 1200 milliards que celle de 3500 milliards. Donc il est dans une position de force, ce qui fait de ces deux personnages, ces deux personnalités, probablement les deux personnalités les plus importantes dans le paysage politique américain pour l'instant, parce qu'ils ont carrément un droit de veto sur le programme démocrate. Donc, il faut savoir une chose, c'est que entre 2020, dernière année de la présidence de Donald Trump, qui avait déjà consacré 1900 milliards pour la crise sanitaire, pour faire face à la crise sanitaire, et puis une première enveloppe de plus de 2000 milliards avait été débloquée lorsque Biden est arrivé au pouvoir. On parle déjà d'une somme de 4000 milliards. Il s'agirait donc d'ajouter à ces 4000 milliards qui ont déjà été débloqués, 1200 milliards plus 3500 milliards. Je veux dire, c'est le délire le plus absolu, hein. On est en train de parler ici d'une planche à billets qui travaille 24 heures sur 24 pour pouvoir alimenter déjà une économie qui est déjà en surchauffe et qui fabrique déjà une inflation considérable qu'on n'a pas connue depuis une quinzaine d'années, combinée avec une rupture de la chaîne d'approvisionnement et un risque de stagflation, c'est-à-dire le pire de tous les scénarios, c'est-à-dire une inflation doublée d'une décroissance. Et c'est face à ce risque qu'on se trouve, avec un dollar qui s'en porte pas mieux pour autant, bien évidemment, et une dette avec un déficit budgétaire qui est de l'ordre de 30 000 milliards aujourd'hui. Donc, on est dans une situation absolument délirante où on pense, aux États-Unis, ou en tout cas ceux qui sont peu soucieux de rigueur budgétaire, on pense qu'on peut faire travailler la planche à billets à l'envi, que ça ne pose strictement aucun problème. Et les seules personnes qui ne semblent pas avoir encore perdu tout à fait la tête au sein du Parti démocrate, ce sont les deux personnes dont nous avons parlé.
Tout à fait. Alors, on parlait donc de Joe Manchin, qui est donc lui le sénateur de la Virginie de l'Ouest, de West Virginia. Mm-hmm. Juste à côté se trouve l'État de Virginie,
oui.
Qui est un État, lui, traditionnellement résolument démocrate.
Oui.
Et se dérouleront, je pense, demain.
Aujourd'hui. Ah non, demain, c'est demain le 2. Hein.
Je ne
sais plus très bien quelle journée. C'est le 2 novembre demain, mardi 2.
Mardi 2 se dérouleront donc des élections pour le gouverneur de Virginie. Pourquoi est-ce qu'on en parle ici, Isa? Parce que bon, ça peut paraître pas extrêmement important.
Ça l'est.
Et ça l'est. un des 50 États, l'élection d'un gouverneur. Mais ça l'est. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme je le mentionnais il y a quelques instants, c'est un État qui vote toujours, en tout cas depuis très longtemps, démocrate, et pas de peu.
Hein. Oui, c'est large.
Très largement. Et donc, au démarrage de cette élection, tout le monde était persuadé que le candidat démocrate, un dénommé Terry McAuliffe, allait l'emporter haut la main sans la moindre difficulté. D'autant plus que son concurrent, le républicain Glenn Youngkin, est un novice en politique, c'est un homme d'affaires, qui a bien réussi dans les affaires, mais qui pour la toute première fois se présente à une élection. Donc on s'est dit, il ne fera qu'une bouchée de cet amateur de la politique. Et c'est bien évidemment tout le contraire qui est en train de se produire. Les tout derniers sondages, donnent le républicain en tête de 7 à 8 points. On verra bien ce qu'il en sera demain. Mais en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup plus serré, potentiellement même une victoire républicaine. Et pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement, ce serait annonciateur, probablement d'une lourde défaite démocrate dans exactement un an, puisque les élections de mid-term auront lieu le 2 novembre 2022, exactement dans un an, où il s'agira de voter pour la totalité de la Chambre basse et pour un tiers du Sénat. Et si, dans un État résolument démocrate, un républicain novice devait l'emporter contre, et d'ailleurs, McAuliffe, qui est un
vieux de la vieille.
Un très vieux de la vieille. Oui. Il était gouverneur avant. Il faut savoir qu'on ne peut pas se présenter deux fois de suite en tant que gouverneur de Virginie. Mais il l'a été dans le passé. Il a occupé d'autres postes entre-temps. Il s'est représenté maintenant pour une deuxième fois. S'il devait l'emporter, ce serait vraiment un tremblement de terre au sein du Parti démocrate.
On peut espérer en tout cas que cette élection soit parfaitement intègre. tout à fait transparente pour que ces résultats soient accrédités par les deux parties et que le vainqueur soit reconnu par le perdant. C'est déjà pas mal. Terry McAuliffe a commencé sa descente dans les sondages. On parle que de sondages. Lorsque, à la faveur de la discussion sur ce qu'on peut enseigner dans les écoles aux enfants, il avait eu cette sortie extraordinairement malheureuse de dire « les parents n'ont pas leur mot à dire dans ce qu'on enseigne aux enfants ». Ça se fait. Donc, si on voulait un peu plus dépouiller les parents de ce qui reste de leur autorité parentale, on s'y prendrait pas mieux. Et ce sont des propos qui ont profondément blessé les citoyens de Virginie, qu'ils soient démocrates ou républicains. Ce qui fait qu'un nouveau venu dans la vie politique américaine, comme Youngkin, le républicain, eh bien, a une chance de renvoyer aux oubliettes de l'histoire un McAuliffe que les sondages donnaient largement vainqueur il y a seulement quelques semaines. Et on a vu, effectivement, au cours des jours et au cours des sondages, voir cette avance se réduire. Ils sont au coude à coude, certains sondages disent qu'ils sont à 48-48, d'autres disent que Youngkin aurait maintenant un avantage certain. On verra ça et on commentera ça dans nos prochaines émissions. Mais effectivement, au-delà de l'élection d'un gouverneur d'un État américain, qu'est-ce que ça peut signifier ? Eh bien, ça parle beaucoup du sentiment de remords qui habite un certain nombre d'électeurs. Démocrates qui découvrent que l'élection de Biden leur a apporté une inflation terrible. On vient d'en parler, une crise de l'immigration qui est tout sauf jugulée, qui a presque été provoquée de bout en bout, une crise énergétique qui n'existait pas et qui était elle aussi fabriquée tout à fait consciencieusement par la Maison-Blanche, puisque je rappelle que jusqu'il y a un an seulement, l'Amérique était autonome sur le plan énergétique et qu'aujourd'hui, elle doit importer une partie de ses besoins, qu'il y ait une véritable explosion de la criminalité, que les perspectives d'emploi ne sont pas très très roses. Et donc, le bilan, il suffit pour un républicain, même étranger à la vie politique, de ne pas parler de ses projets à lui, mais de dire simplement ce que les démocrates ont réussi à faire pendant 8 à 9 mois d'exercice du pouvoir pour capter l'attention des électeurs de Virginie. On va voir, mais effectivement, c'est ce qu'on appelle une élection test. Parce que, je rappelle, vous le disiez tout à l'heure, pratiquement jour pour jour, je crois que ce sera le 3 novembre 2022, ce seront les élections du midterm, où on votera le renouvellement de l'ensemble de la Chambre basse, un tiers des sénateurs, tous nos auditeurs le savent déjà, et je pense 34 gouverneurs.
34 sénateurs
Et gouverneur aussi.
Ah, gouverneur.
Et gouverneur aussi. Gouverneur aussi. Donc c'est une élection importante. Et ce qui aura lieu demain, c'est une élection test. Ça donnera l'humeur.
Une température,
exactement, des électeurs américains après une dizaine de mois d'exercice du pouvoir par l'administration Biden.
Alors on parle d'élection. Et avant qu'on ne parle d'un autre sujet électoral dans un État voisin.
Oui.
Presque voisin, je pense. Il faudra vérifier sa carte américaine. Enfin, le Wisconsin n'est pas très loin de la Virginie, je crois. Ou c'est très loin ?
Oui, relativement.
Bon, alors, j'ai dit une bêtise, une de plus. Hein. Avant de parler du Wisconsin, je propose qu'on fasse une petite pause musicale avec une nouvelle composition de Clément.
C'est déjà fini ? Ah ben on en aurait demandé un peu plus.
Oui,
là.
Exactement.
On a trouvé ça magnifique.
Peut-être En fin d'émission, alors, s'il nous reste une petite minute en fin d'émission. Alors donc, le Wisconsin, Isaac, vous savez que c'est une autre marotte à nous, hein, nous sommes probablement les seuls en Europe qui osons parler de ces fameuses élections de 2020, peu importe ce qu'on dit de nous, hein, nous sommes des affreux complotistes, Isaac, évidemment. Sauf que, on apprend une nouvelle fraude électorale au Wisconsin, qui a été annoncé par le shérif de l'un des districts, qui a fait une conférence de presse très remarquée par ceux qui voulaient la remarquer.
Bien sûr.
Les grandes chaînes de télévision, et bien évidemment, ont tout fait pour ne pas la mentionner. Mais de quoi s'agit-il, hein, en parlant des élections présidentielles
de 2020.
De 2020. Et il s'agit des maisons de retraite. C'est que dans les maisons de retraite, il y a bien évidemment beaucoup de citoyens qui ne sont pas en mesure d'aller se présenter, qui donc votent par correspondance. Et dans ces maisons de retraite, on sait qu'il y a beaucoup d'individus qui n'ont pas les moyens, ils ne sont pas en capacité de voter. Je parle maintenant intellectuel, mental, et donc ils n'ont en fait pas le droit de voter. Comme des mineurs, ils sont considérés comme des mineurs. Et donc ils n'ont en toute logique pas le droit de voter. Et bien, on apprend que la commission électorale du Wisconsin avait d'abord interdit... Parce que pour éviter des abus, justement, la loi du Wisconsin prévoit que certains fonctionnaires sont envoyés dans ces maisons de retraite pour vérifier comment le vote se déroule dans ces maisons, s'assurer qu'il n'y ait pas des abus qui soient commis contre ces personnes âgées ou incapacitées. Et on apprend que la commission électorale a interdit à ces fonctionnaires de faire leur travail, non, comme toujours, du fameux Covid. Ils n'ont pas empêché, évidemment, toute une série d'autres corps de métier d'y aller, hein, pour réparer des airs conditionnés. Il y avait toute une série de corps de métier qui ont eu accès à ces maisons de retraite pour faire leur travail.
Mais pas ces vérificateurs.
Ces fonctionnaires-là, absolument, ils ne pouvaient pas avoir accès à ces maisons de retraite. Et ce shérif a appris par la fille d'une de ses résidentes que sa mère, qui n'était pas en capacité de voter, avait en fait voté.
Qu'on
lui avait fait voter. Alors, curieux, il avait fait même vérifier un petit peu plus de plus près ce qui s'était produit. Il est allé dans cette maison de retraite. Il a détecté 42 votes irréguliers du même genre, de personnes qui n'étaient pas en capacité de voter, mais qui ont malgré tout soumis leur vote par l'intermédiaire du staff médical qui était là et qui ont voté en leur nom. On ne sait pas comment ils ont voté. On imagine plus que probablement pour Biden. Ça, l'histoire ne le dit pas, mais enfin, c'est une maison de retraite. 42 résidents qui, en essence, ont voté illégalement. Il faut savoir qu'il y a 355 maisons de retraite au Wisconsin. Alors, ce serait un peu simpliste que de faire 42 sur 355. Bon, ben, disons que si on devait faire ce calcul, on arrive quand même à 14 000 bulletins qui pourraient être éventuellement entachés d'irrégularités. Enfin, voilà, donc
rien que sur ce segment d'électeurs.
Oui, un tout petit segment d'électeurs dans un État où l'écart était de 23 000.
Exactement.
Donc un des trois États pivots. Donc une nouvelle fraude électorale qui passe inaperçue, si je vous dis, puisque personne n'en parle à part nous.
Oui, personne n'en parle, ça n'intéresse plus personne. Je veux dire, il n'est pas question d'entendre ces récriminations sur l'intégrité et la transparence des élections du 3 novembre. Et on l'a déjà dit, on a déjà fait ce commentaire. Les Républicains feraient bien de cesser d'en parler, d'ailleurs. Ils ne devraient témoigner du souci de révéler les fraudes, non pas pour invalider l'élection de Biden, parce que c'est fait. Il faut penser à l'avenir. Et je ne pense pas que les électeurs républicains n'ont pas besoin d'être convaincus. Ils savent qu'il y a eu fraude et que l'élection a été entachée d'irrégularités assez significatives, à tout le moins dans les États tampons ou dans certains États tampons. Mais ça a peu de chances de convaincre les indépendants, moins encore les démocrates, qui, eux, sont convaincus de la parfaite intégrité, de la parfaite transparence de ces élections. Donc la cible, naturellement, qu'il faut convaincre, sont les indépendants. Et les indépendants, la seule manière de les convaincre, ce n'est pas de leur faire la preuve, de leur apporter la preuve qu'en 2020, l'élection était truquée. C'est de montrer le désastre de la gestion des États-Unis par Joe Biden. Et je pense que tout candidat à l'élection du Parti républicain ferait bien de s'atteler à cette tâche, c'est de faire l'énumération extrêmement scrupuleuse de toutes les carences et de tous les manquements de cette administration. J'en ai fait une très très courte énumération tout à l'heure, mais ça n'est pas la seule. Je n'ai même pas évoqué le désastre du retrait américain de l'Afghanistan, par exemple. Je n'ai pas évoqué les tragédies qui se passent à la frontière méridionale. Donc, il suffit de faire le bilan de cette élection pour susciter un remords grandissant dans le chef d'électeurs qui, par rejet de Trump, ont voté, non pas par adhésion mais par défaut, ont voté pour Joe Biden. Donc c'est cela. Le meilleur argument électoral pour les Républicains ne consiste pas à revenir sur l'élection du 3 novembre dernier, mais c'est simplement de faire le bilan de l'action de la présente administration.
Sauf que, quand même, sur ce point-là, on prend le Wisconsin. Le shérif estime, le shérif qui a fait donc cette conférence de presse pour présenter ses résultats, estime que l'instruction qui a été donnée par cette commission électorale était illégale.
Oui,
parce qu'elle avait d'abord demandé la permission au gouverneur pour pouvoir effectivement annuler la présence de ses fonctionnaires dans les maisons de retraite. Le gouverneur ne leur a pas accordé, disant qu'il n'avait pas l'autorité de changer une loi électorale. La commission électorale l'avait encore moins. Et donc il s'agit là d'une infraction flagrante de la loi américaine qui, d'après ce shérif et d'autres juristes américains, pourrait voir l'État de Wisconsin décertifier.
Oui. Décertifié,
mais dans son état.
Mais alors, ça posera la question de savoir ce que vaut cette décertification au cas où elle est prononcée, dans la mesure où la Constitution américaine elle est très claire. À partir du moment où le Congrès a certifié, c'était le 6 janvier, a certifié l'élection au collège électoral de Biden, est-ce qu'on pourra défaire ce qui a été fait et qui a été gravé dans le marbre le 6 janvier 2021 ? Je pense que on ne refera pas l'histoire, on ne défera pas le résultat de l'élection. En revanche, tout ce travail n'est pas moins utile pour autant. Mais il faut savoir à quoi ce travail est utile. Non pas à décertifier, à revenir sur une élection qui est passée, qui appartient à l'histoire, désormais, aussi injuste ait-elle été, ou a-t-elle pu être, mais ce travail doit servir à prévenir les fraudes dans la prochaine élection. C'est à ça que doit servir ce travail, pour prévenir l'ensemble des États qu'ils doivent prendre des mesures d'urgence dès à présent, puisque l'élection prochaine, c'est dans 12 mois seulement, pour que ce qu'on aura constaté, ce qu'on a déjà constaté en Arizona, ce qu'on constate maintenant au Wisconsin, et ce qu'on ne manquerait pas de constater dans d'autres États charnières, ne se produise plus dans les élections de 2022.
Alors, un dernier sujet aux États-Unis, c'est une autre marotte à nous, Isaac, c'est Facebook.
Oui.
On apprend...
Marotte par défaut, hein.
Marotte d'en parler.
Oui, voilà, d'accord.
On apprend que Facebook aurait perdu, en fait, le contrôle de ses algorithmes.
Oui.
Il n'arrive plus à comprendre comment ces algorithmes fonctionnent, à tel point qu'ils sont obligés maintenant de créer de faux profils pour essayer de voir et de tester... comment ces profils sont gérés par leurs algorithmes, avec quel type d'informations ils sont alimentés, pour essayer de comprendre comment ces algorithmes décident du type d'informations qu'ils vont fournir à tel profil ou à un autre profil. C'est quand même assez effrayant. On se croirait vraiment dans ce fameux film de Frankenstein.
Oui, la créature qui échappe à son créateur. Oui, c'est effrayant. Moi, je ne suis certainement pas le mieux placé, loin, très très loin de là, pour parler de ces choses-là, puisque je ne suis pas... On ne travaille pas sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse assez peu. Vous savez, je crois que nous partageons la même idée, le même regard sur ces égouts. Donc ça m'intéresse assez peu. Mais je comprends le principe de ce que vous rapportez. C'est absolument, absolument effrayant. Effrayant.
Et alors on apprend aussi que c'est d'une fuite en avant qu'il s'agit, puisque maintenant ils ont décidé de changer de nom. Hein,
Il s'appelait Meta.
Il s'appelait Meta.
Metaverse.
Ils essaient de faire croire que c'est parce que c'est pour leur nouvelle génération, la métaverse.
Personne n'est dupe.
Voilà, la création d'un monde virtuel qui a suscité ce besoin de changement de nom, alors qu'on sait essentiellement que c'est la mauvaise presse associée avec le nom Facebook qui a bien évidemment été, je pense, la motivation essentielle. Mais c'est aussi encore une nouvelle fuite en avant. Hein, et on peut lier ça peut-être à la discussion qu'on va avoir maintenant sur la COP26, puisque c'est nouveau cette énième conférence qui n'arrête pas d'annoncer la fin du monde. Ben, voilà, Zuckerberg est maintenant persuadé que le monde est inhabitable, il s'agit d'en créer
un virtuel
ou
un parallèle
pour trouver refuge.
Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire mutatis mutandis que la COP26 va parler d'un monde totalement fantasmé, tout à fait virtuel, qui n'a strictement aucun contact avec la vérité. Mais on peut quand même s'interroger. Ce n'est pas une conférence qui a lieu. C'est une grande messe. C'est une grande messe parce qu'il s'agira de célébrer la promesse du monde de sauver la nouvelle déesse, la déesse Terre. Gaïa, c'est elle qu'il faut sauver. Alors il y a un pape pour présider à cette nouvelle église, il y a des grands prêtres et puis il y a des adhérents d'ailleurs qui se rendent en masse par train pour montrer leur adhésion, leur conscience civique, se rendent en train jusqu'à Glasgow pour témoigner de leur souci qu'il faut sauver la planète parce que nous dit-on depuis à peu près 40 ans, depuis que le GIEC, c'est-à-dire cette agence de l'ONU pour le climat, nous pond des rapports aussi catastrophiques, cataclysmiques, tous les ans pratiquement, eh bien, tous les ans depuis 40 ans, il est minuit moins une. Et si cette fois-ci, plus que les autres fois précédentes, nous ne prenons pas les mesures suffisantes pour sauver cette planète, eh bien, ce sera la fin du monde. Ce sera la fin d'un monde. C'est carrément ce qui nous est dit. Alors, c'est à croire que la montre est cassée, hein, parce que si depuis 40 ans, on est à minuit moins une, c'est que peut-être, soit la montre ne fonctionne pas, soit que tout compte fait, la Terre a encore de belles années devant elle avant de passer de vie un trépas. Alors, moi, je suis assez... Je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas les qualités requises pour dire si effectivement une telle menace pèse sur le devenir de la planète, qu'elle est menacée par une hausse des températures qui, si on n'y prend garde, et dépasse le 1,5 degré, et pourrait même atteindre, nous dit-on, avec de l'effroi dans la voix, 2,7%, eh bien... 2,7 degrés, oui, les auditeurs auront rectifié, eh bien, ça va accélérer encore plus, eh bien, la fonte de la calotte glaciaire, des terres qui vont être submergées, des réfugiés climatiques par dizaines de millions. Enfin bref, on nous promet l'apocalypse, rien moins que l'apocalypse. Ce qui est remarquable, c'est de mettre en miroir l'extraordinaire vertu climatique ou environnementale du monde occidental qui fait des efforts considérables. Même avant, d'ailleurs, l'accord de Paris de 2015. Et de l'autre côté, le monde asiatique en particulier, qui est dans une explosion de croissance et qui a besoin, dont le souci premier, c'est d'alimenter cette croissance et de se donner les moyens de la tenir, de la soutenir et de la projeter dans l'avenir. Je pense tout particulièrement à l'Inde et à la Chine, mais pas seulement. Il y a le Vietnam aussi, il y a Laos, le Cambodge, la Malaisie, l'Indonésie qui participent de cette espèce de frénésie de consommation et donc de dégagement de CO2. Mais ce que je remarque, c'est que toute la responsabilité, toute la charge de sauver la planète pèserait sur les pays riches, les plus vertueux, et qu'il faudrait venir au secours des pays en voie de développement ou les pays émergents, comme si la Chine était encore un pays émergent. Je veux dire, elle talonne les États-Unis pour devenir peut-être la première puissance économique mondiale à l'horizon de 10 ans seulement, mais elle est encore qualifiée pour l'OMC, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce, comme un pays en voie de développement. C'est véritablement du foutage de gueule. Et on ouvre en Chine toutes les semaines une usine à charbon. Toutes les semaines, même chose en Inde. Même chose en Inde. C'est-à-dire que ces deux pays, l'un dépend pour 63% du charbon, et l'autre 72%. Et vous croyez réellement que ces pays vont freiner leur consommation de charbon lorsqu'ils peinent à avoir du gaz et du pétrole et qu'ils doivent avoir recours au charbon pour alimenter leur croissance? Mais réellement, on se fiche de la gueule du monde ici. Et même chose pour l'Allemagne. L'Allemagne qui a pris la lumineuse initiative de renoncer au nucléaire il y a déjà quelques années et qui a donc dû relancer son extraction de charbon. Formidable, et qui a aussi accru sa dépendance à l'égard de la Russie. Et notre propre gouvernement qui devrait décider ces jours prochains de savoir si on va abandonner la filière nucléaire dans laquelle les Belges se sont illustrés et ont toujours été dans le peloton de tête dans la filière du nucléaire, si on va fermer les centrales nucléaires à l'horizon de 2025. Bien, très bien. On fait quoi après ? Avec des turbines, des éoliennes qui tournent lorsqu'il y a du vent, et avec des... comment ça s'appelle, le truc qui vient du soleil, là
Les panneaux solaires,
voilà, merci. Avec les panneaux solaires qui produisent de l'énergie lorsqu'il y a du soleil. Donc ça veut dire que ce sont des sources intermittentes. On fait quoi pendant cette transition qui va pas durer un jour, qui va pas durer un an, qui va pas durer 10 ans, mais qui va durer au moins un demi-siècle avant qu'on ait des énergies de remplacement. Une fois qu'on se sera passé du nucléaire, on fera quoi?
Tout à fait. Là, je crois que vous pointez du doigt toute la difficulté de ces mouvements écologistes en Europe et aux États-Unis. C'est qu'ils veulent à la fois effectivement décarboner et ils veulent à la fois dénucléariser. Supprimer les deux.
Alors que le nucléaire est certain.
Le nucléaire est normalement peu pollueur. Mais évidemment, depuis le drame ou l'accident de Fukushima, on sait que dans l'imaginaire occidental, on imagine les pires catastrophes possibles liées au nucléaire. Donc voilà, ils veulent à la fois décarboner et à la fois dénucléariser. Donc c'est tout simplement impossible. C'est
impossible.
La quadrature du cercle. Et quand même ce serait possible, ce serait presque inutile, puisqu'effectivement, comme vous le mentionnez, pendant qu'on décarbone ici, les Chinois et les Indiens...
On surcarbone.
Surcarbone beaucoup plus que ce qu'on est en mesure de décarboner ici. Et donc le bilan climatique pour la totalité de la planète...
Un désastre.
Ne serait de toute façon pas amélioré par cette politique. Ce qui serait, par exemple, et surtout... renforcer, c'est la dépendance du monde occidental.
C'est ce que j'allais dire.
Oui,
avec la Russie.
Avec la Russie, avec les mauvais acteurs de l'énergie, que sont les Russes, les Iraniens...
Ou l'Arabie Saoudite, ou les monarchies du Golfe. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va demander un effort financier, mais considérable, qui dépasse simplement l'entendement ou l'imagination aux pays occidentaux. Parce que ce qu'on est en train de piloter, ou ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un véritable changement de société. Passer de la croissance à une forme de décroissance vertueuse. Okay ? Pendant que, de l'autre côté, vous aurez des économies qui seront autorisées de continuer de fonctionner à fond, alimentées par de l'énergie fossile. Donc ça va, pendant que vous aurez l'Occident qui fait son virage vers un plus grand respect environnemental, vous aurez eh bien les concurrents, ceux qui rêvent de supplanter l'Occident sur le plan économique, qu'eux continueront de pouvoir consommer autant d'énergie fossile qu'il faut. Sans compter, je le répète, parce que l'économie, ça commande aussi la politique. Lorsque vous vous mettez sur le plan énergétique, qui vont bientôt devenir un produit de luxe, comme du caviar, parce que forcément, si vous renoncez, si vous diabolisez l'énergie fossile, si vous faites en sorte que plus personne ne va investir dans l'extraction de nouveaux gisements, l'offre, elle va baisser. Mais la demande, elle explose. Et elle n'est pas prête de diminuer. Elle continuera d'augmenter. Donc ce différentiel entre l'offre et la demande va continuer de s'accroître, avec une pression terrible sur les prix. Ce qui veut dire que les prix vont devenir de plus en plus élevés. Et je répète, ça va devenir littéralement un produit de luxe. Il faut savoir qu'en dehors des villes où on aime se croire vivre au cœur de la modernité, où on peut se déplacer en métro ou en trottinette, eh bien on utilise encore son véhicule pour aller à son travail. On fait parfois plusieurs dizaines de kilomètres le matin pour y aller et plusieurs dizaines de kilomètres le soir pour en revenir.
Et il y a d'autres effets tout aussi négatifs qui sont induits par ce type de logique et de politique. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la difficulté qui existe aujourd'hui dans toute la chaîne d'approvisionnement pour le magnésium. magnésium est essentiellement produit en Chine. Oui. Je crois que les Chinois sont responsables de environ 95% de la production mondiale de magnésium. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appliqué leur stratégie habituelle de dumping pendant 20 ans du magnésium sur
les marchés
occidentaux. Au passage, ils ont tué toute l'industrie du magnésium, la concurrence européenne. Il n'y a donc plus de producteurs ici en Europe. Nous, aux États-Unis, on est donc quasi totalement dépendant de la Chine pour une matière assez stratégique, puisqu'elle est essentielle dans pas mal d'applications, et particulièrement dans l'automobile, mais pas uniquement. Et alors pourquoi est-ce que je dis que c'est un effet induit ? Parce qu'effectivement, les Chinois, maintenant, ont très beau jeu de dire que, effectivement, si vous voulez qu'on décarbone, et ils le jouent à ce jeu déjà, ils disent, voilà, vous mettez la pression sur nous pour décarboner, eh bien voilà, la conséquence, c'est que on est obligé maintenant de ralentir certaines de nos centrales en Chine, et que les usines de magnésium sont extrêmement consommatrices d'énergie, et donc la production
va en pâtir.
Et donc on n'est plus capable de vous livrer. Et on est dans une situation actuelle maintenant, vraiment à flux tendu sur toute la chaîne de magnésium.
Pas seulement sur le magnésium, hein, ce que vous dites, c'est pour à peu près tous les matériaux rares.
Mais ça, c'est un des derniers qui est maintenant pointé du doigt par pas mal d'industriels européens qui s'inquiètent de plus en plus de devoir éventuellement fermer leur chaîne de production automobile et dans d'autres applications, par manque de magnésium. Il y a déjà eu des difficultés sur la chaîne des semi-conducteurs. Eh bien, voilà, on voit comment ce type de politique où on insiste lourdement pour décarboner chez nous et qu'on met pression sur les Chinois pour décarboner chez eux peut avoir des effets induits extrêmement catastrophiques.
Oui, pervers. Et sans parler de ce que la Chine exige pour accepter de contribuer à prendre en compte les préoccupations environnementales, c'est de dire vous cessez de nous embêter à propos des Ouïghours, ou vous levez les sanctions qui blessent l'économie chinoise, ou bien les investissements chinois aux États-Unis, ou le travail de Huawei sur la 5G par exemple. Donc c'est un véritable chantage où la Chine dit nous acceptons d'y contribuer. Mais vous en passez par nos conditions. Donc on voit cette espèce de soumission à une nouvelle déité. On a tué Dieu, on a besoin de quelque chose pour le remplacer. Il faut donner une raison aux jeunes de croire en l'avenir, de croire en quelque chose. Eh bien voilà, c'est la terre-mère, c'est la terre qui est littéralement déifiée, quitte à ce que les hommes en payent les conséquences.
Et d'ailleurs, la Chine brille par son absence. Hein,
Bien sûr.
Elle n'est intervenue qu'à travers une vidéoconférence.
Oui.
Et dans le cadre de son intervention, Xi Jinping, en fait, est essentiellement plein de la pression qu'on mettait sur la Chine pour essayer de faire la lumière sur ce fameux Covid et l'origine du Covid. C'est en essence la seule contribution qu'il a faite à cette COP26.
Mais il n'y a pas que la Chine, hein, vous savez.
La Russie aussi.
La Russie aussi. Et je voudrais dire un mot de l'Australie. Pourtant, partie du monde occidental, des puissances occidentales, des démocraties libérales, tout ce que vous voulez. Je veux dire, l'industrie du charbon en Australie, ça rapporte 50 milliards de dollars par an. Hein, et ça fait vivre 50 000 personnes. Vous croyez réellement que l'Australie va accepter de se passer de rentrer en devise à hauteur de 50 milliards de dollars et de mettre au chômage 50 000 personnes? C'est absolument ahurissant. Donc ce qu'on va voir... ce qu'on voit depuis hier à Glasgow et qu'on va voir pendant 2 semaines, c'est un jeu de dupes. Un jeu de dupes où, en réalité, les intérêts nationaux vont prendre le pas sur cette ambition globale et on va nous vendre cette salade encore que la Terre est en danger et qu'il est minuit une, sans demander à ceux qui ont le pouvoir de la faire passer sur minuit deux d'apporter leur contribution.
Alors Isaac, parlons un petit peu de la France. Et puis donc de cet objet politique non identifié ou
bien
de
identifié.
Plus en plus identifié qu'est Éric Zemmour, puisqu'il continue à mettre la pagaille dans cette campagne électorale, à la fois en divisant évidemment le vote d'extrême droite, mais aussi en tenant quand même, c'est vrai, des propos parfois un peu provocateurs. On en a parlé la semaine dernière. Mais qui suscite maintenant à leur tour toute une série de réactions d'hommes politiques ou de femmes politiques françaises. Certaines d'entre elles sont également aussi un peu surprenantes. Je pense qu'il y en a une particulièrement de Jean-Luc Mélenchon qui a attiré votre attention.
Oui, mais c'est une déclaration qui est marquée du sceau de l'antisémitisme le plus abject. Là, il ne faut pas tourner autour du pot. La sortie de Mélenchon, c'est... Je la cite, hein.
Zemmour est représentatif des scénarios culturels du judaïsme, ne rien changer à la tradition, avoir horreur de la créolisation. Tout ça, ce sont des traditions qui sont pour beaucoup liées au judaïsme. Ça veut dire que le judaïsme est intrinsèquement réactionnaire, est un frein par nature, est un frein à l'acceptation de l'autre. Et donc, il n'y a rien de plus antisémite qu'un tel propos. Rien. Alors, j'observe qu'on a beaucoup critiqué, pour certaines de ses sorties, avec raison, Zemmour, que certaines personnalités du monde juif français ont été jusqu'à le taxer de juif antisémite. Je n'ai pas noté la même véhémence, même si on a entendu Castaner s'exprimer et condamner Moscovici également, sortir de son anonymat pour lui aussi condamner les propos antisémites de Mélenchon. Mais quelqu'un qui se présente à la magistrature suprême, présidence de la République, chef d'un parti, qui va d'une énième saillie clairement marquée d'antisémitisme, qui n'a rien à envier à son devancier Le Pen.
Au général de Gaulle aussi, qui était quand même fendu d'une déclaration un peu du même genre.
Bien sûr. Mais, je veux dire, aujourd'hui, s'il n'appartenait pas au monde de la gauche, au camp de la gauche, au camp du bien, eh bien, des tels propos seraient tellement stigmatisés que le seul endroit où ils pourraient se cacher, ce serait une île déserte, même pas présente sur les cartes. Donc, mais ça passe. Ça passe. On aura brocardé Mélenchon pour ses propos, mais ça n'ira pas plus loin que cela. Il continuera son chemin. Alors que tous les jours, vous avez Zemmour qui donne très souvent des verges pour se faire battre. Hein. On le sait bien, on le rappelle, l'histoire de Pétain, l'histoire des enfants Sandler et Monsenego versus Mérin, la vérité historique sur Dreyfus, dont lui dit qu'il aurait été accusé de trahison moins parce qu'il était juif que parce qu'il était allemand. Donc tout ça, effectivement, ça fait plus que désordre. Ça suscite la controverse, et c'est bien normal qu'elle suscite la controverse. Mais enfin, j'observe qu'un grand nombre de journalistes, 150 à 160, eh bien, rêvent de censurer Éric Zemmour, et le patron du PCF, c'est-à-dire du Parti communiste, oui, oui, ça existe encore, vous savez, un parti communiste, ça existe encore.
Roussel, je crois. Hein.
Roussel, voilà, Cadet Roussel. Eh bien, lui, il rêve de priver, il voudrait introduire au mois de décembre une résolution ou un projet de loi à l'Assemblée qui priverait Éric Zemmour du droit de se présenter à l'élection présidentielle. Bien, voilà. Ça, c'est un peu la moisson de cette semaine sur la campagne présidentielle française qui prend décidément un tour de plus en plus malodorant.
Alors, Isaac, peut-être un tout dernier coup de cœur avant
que vous cédiez. Oui, avant de reproduire la...
De réécouter
la création de notre ami Clément Villancel.
Mais c'est le geste fort de Gilad Erdan,
oui,
aux Nations Unies.
Oui, de déchirer le rapport du Conseil des droits de l'homme qui a encore une fois stigmatisé Israël. Et il l'a fait de la tribune des Nations Unies qui se proposait à l'Assemblée Générale de discuter précisément de ce rapport du Conseil des droits de l'homme.
Parfait. Eh bien, écoutez, on profite de la dernière minute pour réécouter la composition de Clément Villancel.